Je me présente rapidement, je m'appelle Marc Gius, j'ai commencé à faire de la radio un peu, on en discutait tout à l'heure, un peu à Radio Sol, puis ensuite, enfin j'étais journaliste au Progrès, j'avais envie de faire de la radio, et puis finalement à Radio Bellevue, quand Bellevue a recruté une grosse équipe de journalistes en 83, et après je me suis plus arrêté, France Culture, et puis la radio suisse romande pendant une vingtaine d'années. Voilà, alors notre atelier 2, il démarre, nous sommes le 10 mai 81, donc finalement les activistes, les militants, militantes de la liberté d'expression ont gagné. Leur victoire, elle est confortée par la victoire de Mitterrand, puisque la gauche avait mis dans son programme la libération des ondes. Donc dans l'atelier 1, on a vu la période contestation du monopole, des pionniers, des pionnières, de Polyphème, de Pipelette, de Canu et autres qui se sont exprimés. Et il faut donc bien réaliser qu'en mai 81, il y a des dizaines et des dizaines de radios qui sont dans les starting blocks et qui attendaient que ça, que la libéralisation des ondes pour enclencher leur émetteur. Et donc c'est à ces radios libres et locales qu'on va s'intéresser dans ce deuxième atelier. On a une heure et demie pour les recenser et surtout pour s'intéresser à leur contenu. Quel type d'informations proposent-elles ? Quel genre de musique diffusent-elles ? Quelle place font-elles à l'expression citoyenne, la parole des auditeurs et des auditrices ? Pour en parler, donc, Simone Darrec, qui est là, cofondatrice de Radio Canu. On vous a entendu, Simone, prendre la parole tout à l'heure depuis la salle, déjà. À côté de vous, Sophie Faudot-Sidbon. Bonjour, Sophie. Vous avez porté Radio Tonus sur les fonds baptismaux. Enfin, vous n'étiez pas toute seule, mais presque. Enfin, il y avait un tout petit groupe. Vous en parlerez tout à l'heure. Et puis, à côté de moi, Jacques Boulu. Bonjour, Jacques.
Bonjour.
Voilà, vous êtes un des pionniers de Radio Julie. Vous étiez déjà présent dans Radio Polyphème. Et puis, Robert Lapassade. Bonjour, Robert. Voilà, un des inspirateurs et acteurs de Radio Bellevue, la radio rock de Lyon. Donc, on vous propose, avant d'entendre les quatre personnes qui sont là, un panorama des radios au tout début des années 80, disons, Elmira 81-82, hein, les sources. Voilà, donc Elmira, tu es l'auteur d'une thèse sur les discours médiatiques pendant les campagnes d'élections présidentielles en France et au Kazakhstan, c'est ton pays d'origine. Tu es post-doctorante et enseignante à l'ICOM, à Lyon 2, et tu es bien sûr membre du groupe Mémoire des radios libres du Club de la presse de Lyon. Tu nous dresses ce panorama ?
Oui, alors bonjour. C'est bon ? Est-ce que tout le monde m'entend ? C'est bon ? Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Marc. Bonjour à tout le monde. Alors donc je vais vous présenter un court panorama des radios libres. Donc voilà, on est, comme a dit Marc, on est en mai, 10 mai 81. Donc la gauche est au pouvoir. Et dès 81, donc il y a une loi qui autorise les radios locales à émettre. Et donc l'État n'a plus de monopole. Et donc il y a plusieurs radios qui voient le jour. Et donc dès 1982, ce sont près de 2000 radios qui envahissent les ondes dans toute la France. Et donc ce sont des radios locales, privées, associatives ou commerciales, thématiques, donc musicales notamment, ou généralistes, qui apparaissent dans le paysage médiatique. Et donc là, je vais vous présenter le panorama des radios lyonnaises et de la région, en m'arrêtant un peu plus sur les radios qui étaient retenues dans le cadre de notre projet. Et donc, nous avons structuré les radios retenues, les radios autour de quatre thématiques. Donc, les radios locales, associatives, militantes et citoyennes. Deuxième thématique, ce sont des radios musicales. Troisième thématique, les radios communautaires et ou confessionnelles. Et quatrième thématique, ce sont des radios commerciales. Donc, nous allons commencer par des radios locales, associatives, militantes et citoyennes qui avaient pour l'objectif de donner la parole à tous ceux qui ne l'ont pas. Et donc, on va commencer par la radio Canu, dont l'entretien qui était réalisé avec Simone Darrec, ici présente. On a déjà parlé beaucoup de Radio Canu et je pense qu'on va en parler dans la suite de cet atelier. Juste quelques mots. Donc, c'est une radio locale associative de Lyon qui a été créée en 81. Et donc, comme c'était dit lors du premier atelier, donc, elle est animée par les anciens de Radio Canu Guignol et Radio Lyon qui ont refusé toute la publicité à l'antenne. Donc, à l'origine, Radio Pirate est illégale. Donc, la radio est créée dans l'optique politique pour lutter contre le monopole des médias traditionnels sur la diffusion radiophonique. Elle s'inscrit dans le mouvement de création justement des radios libres. Et donc c'est une radio historique des pentes de la Croix-Rousse qui a pour slogan donc Radio Canu, la plus rebelle des radios, qui avec l'envie de relayer les luttes politiques et de donner la parole à celles et ceux qu'on entend moins ou pas du tout. Donc là, on va passer à la Radio Cala, dont on a évoqué aussi lors du premier atelier. Donc l'entretien qui a été réalisé dans le cadre de ce projet avec Patrick Gervais. Et donc, comme nous, on a déjà parlé de Radio Polyfem, qui a donné naissance justement à la Radio Calat et à la Radio Julie. Et donc, Radio Calat, c'est la radio locale associative de Villefranche-sur-Saône. Et donc, la Calade, c'est le nom d'un des quartiers de Villefranche-sur-Saône. Et donc, la Radio Calade, les premières émissions, donc c'était le 16 janvier 1980. Donc, c'est une radio musicale axée sur les tubes et les découvertes. Donc, il y a de l'info, des magazines, des émissions thématiques. Et donc, la Radio Calade, vue par elle-même à l'époque, donc, elle veut développer et promouvoir les expériences alternatives allant dans le sens de l'émancipation de l'individu. Donc, local, elle privilégie l'information, la vie associative, mais aussi la réflexion et la création. Donc là, on va passer justement à la Radio Julie. Et donc l'entretien qui a été réalisé avec Jacques Boulu, l'un des créateurs de Radio Julie, et Françoise Mirmou, donc ancienne présidente de la Radio Julie. Donc la radio qui a été créée, la radio d'expression locale qui a été créée en décembre 81 à Bron. Et donc la Radio Julie vue par elle-même, donc à l'époque, la fréquence des banlieues, et donc qui a trois préoccupations essentielles, donc rendre compte et favoriser la vie associative de l'Est-Léonais, donner la parole aux habitants et surtout aux minorités, remplir une mission de service public et donc faire état de toute la réalité sociale, politique, religieuse, culturelle et sportive. Donc là, on va passer à la radio suivante. Donc c'est la Radio Val de Reims. Et donc l'entretien qui a été réalisé dans le cadre de ce projet avec Jean-Pierre Desrouard, donc le fondateur de la radio. Donc Radio Val de Reims s'était créée le 3 novembre 81 et avec le slogan « La radio qui vous ressemble ». Et donc, dans l'objectif de lancer une radio locale pour donner une voix à la région d'Amplepuis, promouvoir l'expression sociale, culturelle, sportive, artistique, économique et en particulier l'actualité des petits villages. Donc là, on va passer à la radio plurielle. Donc la radio qui est retenue aussi dans le cadre de ce projet. Donc c'est une radio d'expression locale qui a été créée en décembre 81 dans le quartier des Minguettes à Vénissieux avec le slogan donc premier sur la diversité. Et donc la radio, l'esprit de la radio vue par elle-même, donc ouverte à toutes les ethnies et toutes les branches sociales. Donc Radio Plurielle permet à la population touchée de prendre conscience des moyens d'expression audiovisuelle et aussi sa volonté de travailler au maximum avec les associations intéressées et de rencontrer les gens dans leur cadre de vie. Donc là, on va passer à la radio suivante. Donc c'est la radio Charpennes-Tonquin qu'on a aussi évoquée lors de notre premier atelier. Donc l'entretien qui a été réalisé avec Bernard Dautant, donc l'un des fondateurs de Radio Charpennes-Tonquin. Et donc la radio est née au début des années 80 comme outil de communication sociale sur le quartier Charpennes-Tonquin de Villeurbanne. Et donc son projet se définit peu à peu autour de l'éclectisme musical, l'info locale, les actions pédagogiques, la participation des associations, la création sonore et aussi quand même la fidélité à l'esprit libre des premières années. Là, on va passer à la radio suivante, donc la Radio Sol. Entretien était réalisé avec Gilles Pomato, Christian Ferbeuf et Yves Bonnet, ici présents. Donc c'est Radio Sud-Ouest Lyonnais, Radio Sol, qui est devenue Radio Sol FM. Voilà, donc c'est une radio culturelle, musicale et locale qui était créée à Lyon en 1982 avec la volonté de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et donc, d'autres radios dans cette catégorie. Donc là, on a parlé des radios emblématiques de cette catégorie, les radios associatives, locales, citoyennes, militantes. Donc dans cette catégorie aussi, nous avons classé la radio Lyon, donc, dont on a parlé aussi, dont on a évoqué lors de premier atelier. Radio Canal 99 et Radio Bel Air. Donc c'est une radio locale indépendante qui était créée à Tarare en novembre 82. Et donc la programmation tourne autour de la comédie musicale, les magazines avec des invités, les émissions sur les spectacles à Lyon et sa région, mais aussi voilà, les émissions musicales. Et justement là, on va passer à la thématique suivante. Donc ce sont des radios musicales. Et donc on va parler de la radio Bellevue. Donc, l'entretien qui était réalisé dans le cadre de ce projet avec Robert Lapassade, un des fondateurs de la radio. Donc, la radio qui a été créée à Lyon en 81, à l'origine par le groupe d'artistes et de graphistes lyonnais Fait Divers Systèmes et le collectif Frigo. Et donc, le programme est principalement musical, donc avec du rock, rockabilly, pop et new wave. Et donc, la radio Bellevue, vue par elle-même, donc c'est une radio rock'n'roll. Qui a pour objectif donc, d'offrir une radio d'artistes, faire venir des invités et casser les structures classiques et routinières de la radiodiffusion. Et donc d'autres radios dans cette catégorie, donc les radios musicales, qu'on avait classées aussi en tant que radio musicale, donc c'est le Ciel FM, donc Rire et Chansons, donc c'est radio locale privée de Lyon, qui existe depuis décembre 81. Donc c'est plutôt les émissions musicales qui sont entrecoupées par des émissions culturelles et techniques. Radio Musique à Lyon, donc qui était créée en 81, et donc c'est plutôt la chanson française qui occupe 75% du temps d'antenne et les informations qui sont basées sur la création régionale et le sport. Radio H2 Ondes, qui était créée en 82 à Villefranche. Radio Grain de Sel, qui était créée en début des années 80. Et Radio Tonus, qui était créée en octobre 82. Donc là, on va passer à la catégorie, à la thématique suivante. Donc, c'est les radios confessionnelles et ou des radios communautaires. Et donc ici, on va parler de RSF Radio Fourvière. Et donc l'entretien était réalisé dans le cadre de ce projet avec Emmanuel Payen, donc le fondateur de Radio Fourvière. Donc c'est une radio chrétienne qui a été créée en avril 82, donc par Emmanuel Payen. Et donc au début, la radio diffuse les prières du matin et du soir. Donc et de la musique. Donc et après, la radio commence à informer sur la vie des églises. Et après, donc, la radio introduit une émission qui s'appelle « Le téléphone du dimanche » qui est destinée aux personnes incarcérées. Et voilà, donc c'est une attention portée aux plus fragiles, ainsi que le souci de la radio de faire vivre l'œcuménisme. Donc là, on va parler donc, d'autres radios de cette catégorie, donc radio confessionnelle et ou des radios communautaires. Donc c'est Radio Rencontre. Donc ça aussi, c'est une radio évangélique. Et il y a des émissions consacrées à l'écoute de la Bible, mais aussi les émissions qui donnent la parole à d'autres confessions. Radio Trait d'Union. Donc, c'est moyen d'expression des minorités ethniques et culturelles, donc françaises et immigrées. Et donc, elle représente plus de 11 langues parlées à l'antenne. Radio Action, qui était créée en février 82, est destinée à l'origine aux communautés espagnoles et italiennes. Radio Judaïka Lyon, qui était créée en 82, donc c'est la radio de la communauté et de la culture juive de Lyon. Radio Arménie, qui était créée à Lyon en 83, donc c'est la radio de la communauté arménienne de Lyon et de la région. Et donc enfin, la dernière catégorie, ce sont des radios commerciales. C'est vrai que quelques mots par rapport à cette catégorie. Donc là, vous avez vu que les entretiens dans le cadre de ce projet, ils étaient plutôt réalisés avec des représentants, les fondateurs des radios associatives, citoyennes, des radios libres, des anciennes radios pirates. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore réalisé les entretiens avec des radios commerciales. Donc c'est pour ça, on est des preneurs des contacts. Si vous avez des contacts, des fondateurs ou des représentants qui étaient au fondement des radios commerciales, donc voilà, on est vraiment... On est des preneurs des contacts. Et donc justement, la radio qu'on a retenue dans cette rubrique radio commerciale, donc c'est la radio Scoop. C'est la radio locale privée de Lyon qui a été créée en avril 82 par Daniel Pérez. Donc c'est un assureur lyonnais. Et donc, le financement de départ était assuré par Daniel Pérez et Albert Artiaco, donc le fondateur du groupe Adeco. Et donc, l'esprit de la radio vue par elle-même à l'époque, donc c'est la radio est sur tous les scoops des loisirs et de la culture à Lyon. Une radio-service, toutes les heures, le micro est ouvert à l'emploi. Et donc, c'est une radio populaire, 80% de musique française et américaine. D'autres radios qui sont dans la... thématique radio commerciale, donc c'est Radio Nostalgie, qui était créée en 83 par Pierre Alberti. Donc c'était un patron d'une entreprise de démolition. Et donc quelques temps auparavant, en 81, il avait créé Radio Contact, qu'il a revendu pour créer à la suite la Radio Nostalgie. Et donc la radio cible à l'époque des personnes de 40-50 ans. Et c'est la chanson française qui constitue 80% environ des titres diffusés. Et donc d'autres radios de cette catégorie, donc radio commerciale, donc c'est Poste 4, qui était ces radios locales privées de Mâcon et Villefranche-sur-Saône, Radio Ambiance, qui était créée en 81, et le Happy FM, Happy FM,
radio,
Happy FM, donc radio locale, voilà, qui a été créée en 82. Et donc en 84, la publicité est désormais autorisée sur toutes les radios de Lyon. Et justement, c'est le Happy FM qui était la première radio à diffuser la publicité à Lyon. Voilà. Et après, les autres radios commerciales ont suivi la diffusion de la publicité. Voilà. Je vous remercie.
Merci Emira. Donc ça va, vous avez une vue de la bande FM. On n'a pas donné les fréquences de chaque radio, mais on imagine un peu, ça fait du monde hein, quand même. Alors maintenant qu'on a un peu dressé ce panorama des radios lyonnaises, eh ben, on va passer au contenu de ces radios, l'info, la musique, l'expression citoyenne, et on va commencer par l'info. Jacques Boulu, à l'époque 81, vous êtes un jeune informaticien, militant écolo, vous faites partie du MERA, le mouvement écologiste Rhône-Alpes. Vous êtes, on l'a dit, dans l'atelier 1, actif dans Radio Polyphème. Et Radio Polyphème va donner naissance à deux radios de la région lyonnaise. C'est Calade, hein, dont le nom est là, et qui est très active aujourd'hui, et d'une part, et c'est Radio Julie, d'autre part, à Bron. Alors, on va s'intéresser avec vous plutôt à Radio Julie. Vous êtes à l'époque président de Radio Julie, c'est ça ?
Je ne suis pas président, c'était Françoise Mermoux.
Enfin, alors, vous avez une responsabilité active. Bon, OK. Et comment ça naît, Radio Julie ? Au tout début, vous êtes installé où et vous faites quoi ?
Alors, au tout début, puisqu'en fait, même si officiellement on a été créé en 81, on a commencé en pirate. À un moment où on se disait que le risque était moins important. Donc, on a émis avec l'émetteur de Radio Calade, qui tournait d'ailleurs beaucoup. La preuve, c'est qu'il était fiable. Donc, et on a commencé à se fixer et on émettait de la bibliothèque de Bron. Puis on était soutenu par la municipalité Paul Ravel, qui était l'adjoint au maire de Bron, qui était socialiste à l'époque. Et donc, on a commencé à émettre.
C'est vous qui êtes allé frapper à la porte de la mairie de Bron, ou c'est eux qui vous ont dit venez, on a besoin d'une radio qui reflète un peu
notre
politique.
On leur en a parlé. On leur en a parlé et on a trouvé une oreille attentive du premier adjoint qui nous a dit ah oui, mais absolument, comme Mitterrand venait de faire une émission et ainsi de suite, il voulait se mettre dans la même mouvance. Et donc, on a. Il nous a aidés et nous a autorisés à nous implanter en fixe avant 81, donc on était encore en pirate, sur la bibliothèque. Voilà. Et après, quand on est devenu officiellement une radio autorisée, à ce moment-là, comme on était la radio des banlieues, donc on est allé s'implanter directement dans les zones les plus difficiles de Bron, donc dans les grandes barres qui sont le long de l'autoroute et du périphérique. Ce qui n'est pas toujours simple. Hein, quand vous sortez d'émission à 10 heures du soir, il y avait des moments un peu chauds. Mais on s'est implanté là et on a voulu tout de suite le plus rapidement possible devenir, enfin, se professionnaliser entre guillemets, c'est-à-dire que on voulait que la radio ne soit pas sorte un peu de du côté brouillon qu'on avait tant qu'on était en pirate, où ce qui était plus important c'était de briser le monopole plutôt que le contenu réel. Donc on a tout de suite, on s'est structuré et on a tout de suite dit pour se structurer, il faut qu'on ait des professionnels. Donc on a recruté un technicien professionnel, un journaliste ici présent dans la salle.
Et Jean-François Cuillafrosse, pour ne pas le citer. Hein.
Pour ne pas le citer. Et tout de suite, un des buts était de faire des journaux d'information réguliers chaque jour. Deux journaux d'information sur la vie de la banlieue, sur la vie qui était vraiment autour de nous dans la cité.
Alors, on va parler de l'information, mais recruter des professionnels, ça veut dire que vous aviez des moyens financiers déjà en 82? Vous aviez des subventions,
c'était qui? Alors, quand en 81, on a déposé un dossier, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais à l'époque, c'était la Haute Autorité. Comment c'était ça?
Oui, c'est ça.
La Haute Autorité de l'audiovisuel. On a déposé un dossier, un bon dossier, qui nous donnait à la fois une... on s'est tout de suite positionné comme une radio associative non commerciale, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas de pub, qu'on n'a jamais fait, comme Calade en particulier. Et donc, ça nous donnait une fréquence d'émission officielle et ça nous donnait aussi des subventions. À côté de ça, la mairie nous aidait dans le sens où ils nous ont fourni un local dans ces bars HLM qu'on ne payait pas. Et après, y a toujours les bénévoles et les créateurs qui mettaient un peu la main à la poche et qui nous ont permis d'acheter le premier set de matériel qui était encore rudimentaire à l'époque. Je rappelle qu'à l'époque, la musique, on poussait des vinyles, hein, on poussait des 33 tours. Et donc voilà, mais tout de suite, assez rapidement, on a eu une grille régulière dans laquelle l'information, qu'elle soit l'information faite par le journaliste, mais qu'elle soit aussi des séquences données en parole aux maisons de quartier, aux associations, de telle manière à ce que l'information locale soit tout de suite extrêmement présente sur notre radio.
Comment vous la définissiez, l'info, c'était quoi? C'était les journaux que faisait Jean-François, et puis les séquences dont vous parlez là, que vous attribuiez ou vous cédiez à des assos,
voilà,
ça c'était de l'info.
On avait dans la grille des séquences qu'on donnait en pratiquement libre accès, en libre parole, à des maisons de quartier, à des associations, voire on avait des séquences le soir de libre expression, ou une personnalité, qu'elle soit culturelle, politique, que sais-je, sportive, venait, avait son antenne ouverte, quitte derrière, quand c'était des éléments intéressants, mais qui pouvaient devenir polémiques, à ce qu'on organise un débat pour expliquer tout ce qui avait trait au sujet que la personne évoquait à l'antenne.
Mais pour ce qui est des journaux, ce que faisait Jean-François, les deux journaux par jour, comment vous en faisiez le menu? Il y avait une discussion collective ou c'était...
Pas vraiment. pas vraiment. C'était, c'était vraiment... Bon, bien sûr qu'on discutait des choses qui étaient prévues, intéressantes dans la semaine sur la banlieue, mais essentiellement, on faisait confiance aux gens qui étaient soit le journaliste qui choisissait ses reportages. C'était pas un chef rédacteur qui disait tu vas là ou tu vas là, il avait la bride sur le coup. Soit on faisait confiance aussi dans le contenu aux maisons de quartier ou aux responsables d'associations.
Jean-François, on peut peut-être donner un micro à Jean-François. Tu peux nous dire un peu comment tu faisais pour décider du contenu de tes journaux et puis comment se passait une journée de journaliste professionnel à Radio Julie à l'époque?
Mais il s'en souvient plus.
J'ai une très bonne mémoire.
Ça marche pas.
Si, ça marche.
Bon,
ça marche.
Je suis un peu gêné de prendre la parole. Non, mais je vais dire simplement, on était ensemble, Marc, tu t'en souviens, au Progrès de Lyon. Et donc, le Progrès avait créé sa propre radio. Nous envoyons en formation radio. Moi, j'en avais fait un petit peu avant à France 3 Radio Lyon. Et donc, moi, j'étais chef d'agence à Vénissieux du Progrès. Donc, j'avais l'habitude de faire les menus avec les gens de notre équipe. Il y avait 5 correspondants. Et quand je suis rentré à la radio, on a fait la même chose. On recevait les informations. J'étais déjà au club de la presse. On avait les informations qui arrivaient, à la fois locales et départementales. Et bon, on relatait l'information de cette façon-là. Je crois que... Bon, on était de toute façon dans l'esprit de la radio. Moi, j'habitais Bron, voilà, quoi.
Mais qu'est-ce qui changeait par rapport à un traitement, justement, tu parlais du Progrès, à un traitement traditionnel ? Parce que quand on a écouté les gens de l'atelier 1, c'était quand même pour faire autre chose, quoi. Du coup, l'info, elle, vous la pensiez comment à Radio Julie ?
Ben non, mais l'info, c'est ce qu'a dit Jacques. On était dans l'esprit de la participation citoyenne et ce qui se passait à ce moment-là sur le territoire. Comme l'ont dit aussi bien Roger que Patrick, on était de cette mouvance post-68, Larzac, etc., PSU. Je veux dire, donc on était dans le terreau social. Moi, je n'ai pas de choix particulier, y compris quand j'étais au Progrès, les angles d'attaque que j'avais, et quand même, d'ailleurs, c'est ce qui m'a valu quelques soucis, on était quand même bien axés sur l'actualité sociale, syndicale, politique du territoire.
Jacques ?
Oui, non, mais j'ai rien à reprendre. Mais on faisait feu de tout bois, enfin, je dirais. Ce qui était intéressant, c'est d'aller voir, de rencontrer tous les acteurs de la vie de la banlieue et puis de les faire s'exprimer et de répandre les idées qu'on pensait intéressantes sur cette zone-là. Voilà.
Et tu aurais un ou deux exemples, un ou deux souvenirs forts d'un moment comme ça, de gens qui viennent et qui donnent à l'antenne des choses qui sont un peu
bousculantes. Déjà au niveau politique, chaque fois qu'il y avait une élection, on faisait venir tous les candidats et puis on les faisait débattre, ce qui, à l'époque, à ce niveau-là, n'arrivait pas. Hein. J'ai souvenir de débats enflammés. Et en plus, je pense qu'il y avait aussi une caractéristique par rapport à ce qui se fait sur des radios beaucoup plus structurées, c'est qu'on laissait du temps aux gens pour s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir que très souvent sur les radios, même encore maintenant, quand la réponse dure plus de 15 secondes, on coupe la personne parce qu'elle n'a pas répondu exactement ce qu'on a demandé qu'elle réponde. Et donc déjà, on laissait, et c'était aussi la libre expression qu'on lançait, c'était pour ça, pour laisser aux gens le temps de s'exprimer, d'autant qu'on faisait s'exprimer des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'être derrière un micro. Donc dans ces cas-là, si on leur laisse le temps, on récupère beaucoup plus d'informations substantielles que quand on veut absolument tout faire en 10 secondes. Quoi, voilà.
Donc vous n'étiez pas des affolés de la pendule électronique comme celle qui est au fond là ?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il y avait des choses. Bon, comme on voulait quand même avoir une grille à peu près construite, il y avait quand même le journal commençait à l'heure à peu près, mais s'il finissait 5 minutes plus tard, c'était pas grave. D'ailleurs, avec Jean-François, c'était souvent le cas. Mais
bon, et est-ce qu'il y avait des discussions autour de quand on parle information ? Est-ce que vous philosophiez un peu autour de cette notion d'information ? Une recherche de la vérité, à qui donner la parole, pourquoi cela, la hiérarchisation, pourquoi on parle d'eux d'abord et puis en fin de journal de ceux-ci, ou pas du tout ?
Ouais, je n'ai pas souvenir que c'était extrêmement ni structuré, ni une approche philosophique, mais non, on construisait en marchant et il y avait beaucoup plus toujours la volonté de faire intervenir des gens qui d'habitude n'ont pas accès à un micro et à la parole, c'était moins structuré que ce qu'après on a pu faire dans d'autres radios.
À ce stade, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui voudraient questionner Jacques ou Sophie ou Robert ou Simone sur cette question de l'information ou apporter un témoignage, une réflexion là-dessus sur des radios dans lesquelles ils ont été actifs ou actives ? Ouais ? Patrick, il y a la dame là qui... La dame au milieu, là, voilà, qui lève la main.
Parce que cette idée du temps, je n'avais pas pensé, mais c'est intéressant.
C'est essentiel.
Ah oui, c'est ce qui fait la différence.
Oui, bonjour, Céline Urbaniak. Moi, je suis doctorante à Aix-Marseille Université. Et je suis en train de terminer une thèse sur Radio Zinzine, l'histoire de Radio Zinzine et notamment ses relations avec les auditeurs. Et je voulais savoir, donc, en particulier pour la radio dont nous sommes en train de parler, mais peut-être pour d'autres aussi, pour ce qui est de l'information, est-ce que, notamment dans ces premières années, est-ce que vous avez eu des contacts, puisque je suppose aussi que c'était beaucoup, beaucoup du direct, est-ce que vous aviez des appels téléphoniques d'auditeurs et même éventuellement des relais des auditeurs qui ont été volontaires pour être un peu occasionnellement ou régulièrement des correspondants de la radio pour apporter des infos ou relayer, passer un coup de fil pour dire ah ben, à telle manif il y a eu, on était nombreux, il s'est passé ci et ça. Est-ce que vous avez eu un peu cette participation d'auditeurs à l'information ?
Alors, il y a deux réponses. La première, c'est que de plus en plus, il y a eu des bénévoles qui ont rejoint l'association et qui ont pris en charge des émissions sur certains thèmes. Ça allait de la musique à des émissions sur les voyages, des émissions médicales, des émissions sur la vie sociale. Bon, ça, c'est la première chose. Et assez rapidement, si le groupe de départ, c'était 5-6 personnes, assez rapidement, on s'est retrouvé près d'une cinquantaine à tourner et à faire des émissions. Parce que déjà, pour couvrir une grille complète, il faut du monde, puisqu'il y a de la préparation, et ainsi de suite. La deuxième partie, c'est qu'il faut quand même voir qu'en 81, les moyens techniques n'étaient pas du tout ceux qu'on a maintenant. C'est-à-dire que déjà, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas le téléphone, c'était encore le vieux téléphone à cadran. Hein, je vous remets quand même dans le... je crois qu'au bout d'un an ou un an et demi, on a pu mettre ce qu'on appelait un insert téléphonique qui permettait aux gens de nous appeler. Sachant aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc ça veut dire qu'il fallait que ce soit des gens qui appellent de chez eux, soit qu'ils trouvent une cabine téléphonique. Ce qui avait quand même été... beaucoup utilisé d'ailleurs par Radio Radicale en Italie, que les gens appelaient des manifs dans les cabines téléphoniques. Donc on a commencé, mais peut-être pas avant 82, voire 83, à commencer à prendre des auditeurs qui intervenaient directement à l'antenne. Justement parce qu'avant cette date-là, il n'y avait pas les moyens techniques pour le faire. Mais Avant qu'on ait les moyens techniques d'intervenir en direct à l'antenne, on demandait aux gens de venir au studio. Et dès qu'on était sollicité, on leur disait « Venez au studio et dans telle tranche d'émission, vous pourrez vous exprimer. » Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais...
Merci. Djida, tu sais, c'est bien, parce que comme c'est enregistré, c'est mieux. Ah, il ne le donne pas, Patrick, il le prête seulement.
Il ne partage pas le micro. Juste sur la liste des radios tout à l'heure, vous avez oublié certainement Radio Salam, qui est une radio classée médiamétrie, etc., et qui diffuse sur toute la région lyonnaise.
Créée en quelle année ?
Eh bien, il y a la directrice qui est là, Wafa. Tu peux peut-être en parler.
En 82, vous existiez déjà ? Non, c'est pour non. ça. Ah, le d'accord. panorama dressé par Elmira, c'est 82, 81, voilà, 82.
C'était plus tard.
Ouais. Elle a dit Radio Trade Union. Oui. Est-ce que sur l'info, il y a encore des réflexions, des questions ? Tout au fond, Gérald, et puis le monsieur là qui lève la main, enfin, vous voyez.
Est-ce que je ferai un commentaire sur l'info ?
Tu peux répondre.
Attends, il faut les laisser poser leurs questions.
Okay. Moi, c'est Vincent Niebédé, étudiant en journalisme à Lyon 2. À l'époque, vous avez dit que les moyens techniques étaient limités. Comment se faisait, par exemple, le traitement des interviews, par exemple, que vous avez ? Merci.
On bricole.
Peut-être une autre question, du coup, regarde derrière, c'est Gérald Bouchon qui souhaitait parler. Non, Gérald, tu ne vas pas le prendre, il faut... Approche-toi. Bon.
Bonjour, moi je suis Gérald Bouchon. Effectivement, je dirige aujourd'hui une radio qui s'appelle Lyon Demain, qui est dédiée à tout ce qui est écologie, vivre ensemble, solidarité. Et j'ai aussi un petit passé, enfin un gros passé, même dans les radios libres de l'époque. Je voulais poser une question particulièrement sur Radio Julie. Vous aviez une grosse proximité quand même avec la mairie de Bron. Comment vous avez réussi à rester indépendant ? J'ai souvenir notamment de débats pour les municipales où le candidat de droite, sincèrement, ne voulait pas venir débattre. Comment on gère ça quand on est en proximité d'une mairie ?
Alors, je vais d'abord répondre à la première question sur la technique.
Les moyens techniques.
Bon, les moyens techniques à l'époque, c'était... tous les journalistes de l'époque ont une épaule qui est plus basse que l'autre parce qu'ils partaient avec un UR ou un gros magnétophone qui pesait 7 kilos. On n'avait pas de Nagra, c'était trop cher, mais on avait des UR et ils ramenaient des bandes et le montage se faisait en coupant des bandes et en recollant. Bon, ça c'est une chose. Au niveau de la musique, on passait donc au début tout avec des vinyles, des 33 tours, avec des platines à démarrage instantané, et ensuite quelques cassettes. Mais il n'y avait donc pas comme maintenant, tout n'était pas numérisé, ça n'existait pas, c'était vraiment très manuel. Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment tout préparer, on faisait des petits bobinos, des petites bandes pour les journaux, quand il y avait un son, c'était un petit bobino qu'il fallait faire partir. Je ne sais pas si je réponds comme ça à votre question. Ah, mais c'était très rudimentaire, hein. Il n'y avait même pas encore des CD, c'était vraiment le vinyle et après, miracle, la cassette. Mais voilà, donc ça c'était la première question. Et
juste
ensuite...
un petit point sur cette question, le groupe de travail recherche sur les radios libres du Club de la Presse discute actuellement avec les archives départementales ici du Rhône et de la Métro pour, on l'espère, une exposition sur le thème de la naissance des radios libres et locales lyonnaises en 2026, ici aux archives. Une expo qui s'étalera sur plusieurs mois avec quelque chose de conséquent. Et là, on verra, on espère, des outils dont on se servait à l'époque, exposés et commentés.
Je crois que c'est canu, ça très bien.
Voilà. Et maintenant, sur l'autre question. Donc... On a eu la chance que la municipalité de Bron, à l'époque, et en particulier Paul Ravel, nous a laissé vraiment complètement carte blanche. Vraiment, on n'a pas eu du tout de problème. Et on pouvait inviter, en gros, qui on voulait. On n'a jamais eu de pression de leur part.
Critiquer la mairie, par exemple, sur tel ou tel plan.
Oui, puisque on a même eu une fois, j'ai voulu débarquer dans un conseil municipal qui était un peu chaud sur un sujet, je me souviens plus ce que c'était. J'ai débarqué avec le UR pour enregistrer. Ça a provoqué la sortie de certains élus qui ne voulaient pas qu'on enregistre le conseil municipal. Enfin, c'était... quand on organisait les débats, on invitait tout le monde. Moi, je me souviens d'un débat où il y avait même le gars du FN. On n'a jamais eu vraiment de
le gars du FN, c'était peut-être un peu plus tard, non? En 81, 82, ils étaient groupusculaires.
Je crois que c'était. Alors, je ne sais plus si ça s'appelait le FN à l'époque, mais c'était un gars clairement identifié plus qu'à l'extrême droite, quoi. Enfin, et on a pu l'inviter. Après, j'ai pas de souvenir d'une fois où le gars de droite a pas voulu venir. Je me souviens plus de ça.
Alors, avant de passer à la musique, un ou deux mots de commentaire. Parmi les trois autres invités, vous dire un mot sur l'info, Simone Darin ?
Je voudrais rajouter sur l'info, parce que c'est intéressant, parce que Radio Canyon, on n'a jamais voulu embaucher quiconque. Le fonctionnement de la radio, dès qu'on a été, entre guillemets, autorisé, mais nous, on a mis du temps à avoir notre droit d'émettre, c'est-à-dire d'avoir notre fréquence, parce que même si on avait été assez pionniers dans les radios pirates, comme on n'était soutenu par aucun groupe politique influent de l'époque et qu'on ne voulait surtout pas être soutenu, eh ben, on a été les derniers servis. Mais ça, c'était la parenthèse. Mais quand même, le fonctionnement de la radio, c'était... On est tous des bénévoles. On est nombreux. On a démarré très nombreux dès le départ. Et les gens venaient proposer une émission. Ils payaient leur adhésion à l'association. Et c'était les seuls moyens de subsistance de l'association. Et je crois que ça a été une manière de préserver l'indépendance. Mais c'était aussi... ce qui ressortait dans le fonctionnement de la radio et dans ce qu'on émettait. Par exemple, sur les infos, on était un petit groupe. On ne faisait pas tous les jours le journal, mais il y avait tous les jours un journal d'infos. Et ce n'était pas toujours les mêmes interlocuteurs. Mais c'est vrai qu'on n'était pas tenus dans des horaires. Donc, on préparait une revue de presse, en quelque sorte. Alors, bien sûr, majoritairement locale. On invitait des gens aussi sur les actualités locales. Ça dépendait qui. Moi, j'ai un souvenir, par exemple, d'avoir interviewé l'association des fumeurs de pipe parce qu'ils avaient une manifestation. Je ne vous dis pas, ça a été drôle. Et là, ça a duré un bon moment. C'était dur de les arrêter. Mais bon, c'est une petite anecdote, mais ça reflète bien l'esprit de la... Il n'y avait pas d'interdit à la radio à part l'extrême droite. Et dans les campagnes électorales, on se payait les soirées électorales, enfin on se payait, on se farcissait les soirées électorales à la préfecture, on nous laissait rentrer puisqu'on était une radio entre guillemets autorisée. Mais c'est vrai qu'on faisait des comptes rendus selon ce qu'on pensait au moment présent. Et donc c'était divers parce qu'on était divers, y compris dans les âges. Le bureau de l'association, ben, il y avait entre autres Thierry Frémaux qui a témoigné, mais il n'y avait pas que lui. Et puis il y avait des gens plus âgés comme moi et d'autres. Mais c'est vrai que du coup, il y avait quand même une diversité d'expressions qui, je crois, intéressait les auditeurs. On n'a jamais vraiment mesuré les auditeurs, mais on avait beaucoup d'appels au téléphone.
Et tout un chacun ou chacune pouvait se considérer comme journaliste.
Oui, alors c'est vrai qu'il y en avait qui étaient plus intéressés pour nous proposer des émissions de musique, hein, bien évidemment, ou des émissions...
Mais sur le traitement de l'info.
Mais sur le traitement de l'info, on était quand même un petit groupe, opérationnel, intéressé, et puis... Mais tout le monde aurait pu se proposer, sauf qu'il y en avait qui étaient moins branchés là-dessus, quoi, voilà. C'était un peu selon notre ressenti des uns et des autres, et il y avait une très grande liberté d'expression, c'est sûr. Et par contre, cette liberté d'expression, elle marquait aussi le contenu de nos informations, bien évidemment, parce que à part les seules censures qu'on mettait, c'était pas d'insultes à la radio, enfin pas de choses comme ça, mais autrement, tous les points de vue pouvaient s'exprimer et se confronter. Ça me semble important de souligner les écarts au niveau des moyens, parce que nous, on avait, à Radio Canyon, on n'a jamais embauché personne, ni je crois encore maintenant, ils n'en sont pas là. Les moyens techniques.
Si, il y a un permanent maintenant. Il y a un journaliste permanent à Radio Canyon.
Je ne crois pas.
Non, je croyais, pardon.
Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils sont toujours sur une base de bénévolat et de volontariat. Alors, avec les imperfections du genre, mais voilà, quoi. C'était pour l'équipe de la radio le prix à payer pour l'indépendance. Parce que c'est vrai que même dans les milieux journalistiques, il y avait quand même des influences des uns ou des autres. Et c'était assez structuré, alors que nous, ce n'était pas structuré de ce point de vue-là. Il n'y avait pas de structuration idéologique a priori.
Merci Simone Daret. Pour passer de l'information sur les radios libres à la programmation musicale, on va écouter un peu de musique. Voilà, c'est un titre qui doit parler à Robert Lapassade, puisque c'est ta voix qu'on entend là sur le...
Pas mal, ouais.
Hein ?
Ouais.
C'était un disque enregistré à Londres en 80 ?
Oui.
Ça ne nous rajeunit pas, mais...
Non, pas vraiment. pas vraiment.
Voilà, donc c'était ton groupe Killdozer, hein, que tu avais fondé quelques années auparavant. Il y a eu, suite à ce disque, une belle tournée en France, puis ensuite le groupe s'est séparé. Et t'es venu à la radio, Radio Bellevue, c'est ça ? T'as été un des créateurs avec d'autres
qui sont oui, on était
en
toute
partie
une équipe,
présents là. Ouais.
Je fais d'ailleurs pas vraiment partie des membres fondateurs littéralement, hein, mais on m'a engagé très vite. Oui,
très vite. Début. Bon. La philosophie de Radio Bellevue, en quelques mots. Comme disait Elmira tout à l'heure, Bellevue par elle-même, vue par elle-même, c'était quoi ? C'était quoi le projet, quoi ?
De Radio Bellevue ?
Ouais.
Alors, il y avait un slogan qui était « Libre, rock, culturel ». Alors, avec un K, culturel, bien sûr, parce que ça faisait mode. À l'époque, ça faisait chic. Ça faisait étranger. Mais oui, c'est un programme. Hein. J'ai entendu parler... Enfin, on est classé, je l'ai entendu tout à l'heure, dans les radios musicales, bien sûr. Mais je pense que ce n'était pas que ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres sujet abordé que la musique strictement, même si je dirais que le rock, ce qu'on défendait, c'est la rock culture plus que le rock tout court, parce que c'est un peu restrictif, mais la rock culture, ça remonte à loin, bien avant les radios libres. Et donc nous, on puisait dans cette histoire du rock, dans sa progression, et puis surtout, on avait envie d'en entendre plus sur les ondes, on avait envie de populariser aussi un peu cette musique, enfin de la répandre, c'était une mission, en quelque sorte. Mais il faut rappeler que quand démarrent les radios libres, leur autorisation en tout cas, ou dites libres, c'est après Giscard. Donc nous, on a vécu 68, on en a entendu parler tout à l'heure, avec beaucoup d'espoir. Je me place au niveau musical notamment. Hein. Et puis, il ne s'est pas passé grand-chose dans les années 70, un peu étouffé par cette ambiance UDF régnante, à Lyon notamment. À l'époque. Et puis donc, on trépignait un peu, on rongeait notre frein, et une envie, il y avait quelques spots, quelques endroits, quelques îlots comme ça de musique sur les grandes ondes. Mais très peu, il y avait eu Salut les copains dans les années 60. Et puis, dans ces années 70, un peu décevante, après tous les espoirs qu'avait soulevé la Révolution. Mais dans ces années 70, la musique, elle a continué à se développer énormément. C'est même florissant ce qui se passe à partir de 68 et dans le début des années 70. Mais surtout, c'est la musique anglo-saxonne qui se développait beaucoup à cette époque et qui nous servait de référence et d'exemple et qui nous mettait des étoiles dans les yeux. Et en France, ça traînait un petit peu. Il y avait des choses, bien sûr, mais ça traînait un petit peu la patte, faute de structure et faute aussi de diffusion. Et c'est là que... Alors, ces quelques spots, il y en avait, je me souviens, sur RTL, la nuit, dénommé Lang, il n'était pas Jack à l'époque, mais Georges Lang, qui diffusait de la musique, s'adressait aux routiers aussi, avec de la musique rock et country, des fois. Et puis, il y avait de la musique intéressante sur France Musique, sur France Culture, mais pas du rock, pas beaucoup, mais du blues, du jazz aussi, on pouvait entendre épisodiquement. Mais enfin, ce rock, au sens même large du terme, était un peu ostracisé. Et voilà, c'est ce robinet qui s'est ouvert pour nous. C'est devenu un peu trop un robinet à musique, très vite, il faut le reconnaître, sur les radios dites musicales, mais on a toujours fait attention, nous, à varier les plaisirs et avoir des interventions plus... culturel au sens large, avec... Alors, on a eu aussi de l'info, tu en sais quelque chose, Marc. Et ça n'a pas duré très longtemps, hein, je crois. Pendant 2 ans, grosso modo, on a eu des bulletins d'info réguliers, quotidiens, et une équipe de journalistes, avec un rédac-chef. Philippe Diblio, notamment, avait fondé cette équipe, personnage dont on garde une belle mémoire. Et des journaux, donc, mais j'ai entendu parler aussi d'une radio qui s'adressait, une radio catholique fondée par un monsieur païen. J'ai beaucoup aimé ça.
C'était
écrit avec un Y. Ouais, mais oui. Et monsieur païen s'adressait notamment aux prisonniers, j'ai entendu. Enfin, il y avait une émission qui était en direction.
Téléphone du dimanche, ouais.
Ouais. On avait ça aussi, nous, c'était Marie, de Marie et les garçons, qui s'adressait aux prisonniers, d'abord parce qu'elle y avait de la famille. Et puis ensuite, parce qu'on a trouvé que c'était quelque chose d'intéressant que d'amener aussi cette bonne parole du rock and roll dans les prisons. Mais on a eu des émissions culturelles, on a eu des nuits blanches entières où des artistes et des performeurs venaient faire des pandémoniums de 7 heures d'antenne nocturne. Donc on faisait le ménage le matin, c'était assez sale. Et des fois c'était passionnant, des fois c'était comme la radio, comme les radios libres de cette époque, ça pouvait être assez gonflant aussi. J'ai entendu parler aussi de professionnalisme tout à l'heure, c'est vrai qu'on a été nous aussi assez vite à la recherche d'un certain savoir-faire, parce que les radios libres avaient ce défaut de faire se succéder des gens passionnés mais amateurs, qui ne savaient pas se placer devant un micro, qui laissaient des blancs, qui lançaient eux-mêmes leur disque en ratant, parce qu'il fallait poser l'aiguille sur le disque, ou lancer le radiocassette qui était à 1,50 m du micro. Enfin, il y avait toutes sortes de maladresses comme ça, techniques, et peu d'expérience qui faisait que c'était pas toujours très audible. En plus, nous, dans ce domaine de rock, on s'est senti autorisé tout de suite de tout mettre. Et il y a des radios, il y a des musiques qui sont un peu inaudibles à la radio. Enfin, inaudible, c'est pas le mot, mais vous voyez dans le jazz, par exemple, bon, il y a le free jazz. Alors le free jazz, si vous voyez un concert de free jazz, vous pouvez rentrer dedans, mais si vous l'écoutez, il faut vraiment être un passionné. Donc nous, on avait aussi des musiques comme ça, extrémistes.
Par exemple
Alors ça y est, tu t'adresses à un vieux bonhomme qui mais... n'a plus de mémoire des noms.
Non mais Bellevue, c'était une discothèque fantastique. Bon, la première fois que je suis rentré,
disques,
dans 25 000 albums. Quoi.
Ouais.
Ta collection, celle de Serge Boissat, enfin, avec des pépites, des artistes qui venaient, qui tombaient en extase devant la discothèque de Bellevue. Donc, dans tout ce choix, c'était quoi la politique musicale ? Tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors, une très grande liberté, éclectisme total, qui était symbolisé par Serge Boissat lui-même, qui a un peu monté l'équipe des DJ, justement, et des intervenants permanents, et qui était un collectionneur fou, vous l'avez sans doute tous connu ou croisé. Il avait un magasin de disques, en plus Bouledingue, et de BD et de livres sur le rock et le jazz et la musique en général. Donc c'est un peu à son image, le programme était très éclectique. Alors il y avait des gens très pointus sur le rock, tous les rocks, et ils étaient nombreux. Et en 80 notamment, tout a explosé, hein. Les mélanges ont explosé, surtout les métissages entre les musiques. Avant, on écoutait du rock and roll ou du rockabilly. J'ai entendu ce mot tout à l'heure. Ça date quand même des années 50-60. Et on a recyclé beaucoup de ces musiques. Alors, et sont arrivés aussi le reggae, les premiers artistes de rap, les musiques électroniques aussi, des groupes comme Kraftwerk. Enfin, du côté de l'Allemagne, on tripotait pas mal les ordinateurs dès les années 80 et même avant. Et donc, et je ne parle pas des musiques sérielles, expérimentales qui se faisaient aussi en France, mais. Et puis Magma, par exemple, des groupes très progressifs et créatifs. Mais voilà, on mélangeait toutes les familles du rock, si possible. Et puis, il y a eu aussi Serge Boissat rappelait. Il est décédé, c'est pour ça que je le dis au passé. Et il y en a pas mal d'ailleurs. De cette époque. Et il me disait qu'on avait fait, parce que moi je m'en souviens pas, je m'en souvenais pas, une nuit entière sur de la musique médiévale chinoise. C'est possible, parce qu'on a fait des nuits entières sur Frank Zappa aussi, sur des choses difficiles à écouter, il faut le reconnaître au poste.
C'est le propre des radios libres. Oui, alors justement, les radios libres, ce qui est incroyable, c'est qu'en même temps que tu nous parles d'une radio qui puisait dans un réservoir de 20 000 albums, à côté de toi, il y a Sophie Faudot. Sophie, quand tu as lancé Radio Tonus, tu racontes que tu l'as fait avec une vingtaine de disques que tu avais été acheté à la Bourse aux Disques.
À la Bourse aux Disques et chez Bouledingue, d'ailleurs.
Ouais. Alors, comment ça s'est passé, le démarrage de Radio Tonus, qui était aussi une radio à vocation musicale, enfin, pour une bonne partie de son programme.
Une radio musicale, ça a démarré très librement. C'était des radios libres. On avait un père qui était communicant, qui est toujours communicant, et qui est arrivé un jour avec un émetteur et une antenne. On l'a posé sur ma table de nuit, l'émetteur, dans ma chambre, l'antenne au-dessus. Bon, on l'a enlevé très vite parce qu'un émetteur, ça fait énormément de bruit, donc c'était assez compliqué. On a commencé à émettre. On a dit, si vous nous entendez, appelez-nous. On était sur la fréquence de France Culture, je crois. Donc, on nous a dit, sortez de là. On s'est remis sur une autre fréquence. C'était France Musique, je crois. Enfin, bref, à la fin, on a trouvé une fréquence sur laquelle on est resté. Pas très longtemps, puisqu'après, on a eu des autorisations d'émettre avec des fréquences dédiées. Donc, on a récupéré une fréquence après. Mais nous, quand on a commencé, on était mon frère et moi. On avait un micro. On n'avait pas de support pour le micro. Donc, on avait été dans le jardin chercher un truc en osier, là, un truc de bambou comme ça, puis on l'avait mis sur un support de lampe qui faisait un peu culbuto, donc on pouvait se le passer comme ça, tu vois, sans que ça fasse trop de bruit. Et on a été acheter 25 disques. Et on a commencé avec nos 25 disques. On changeait de nom toutes les deux heures pour dire, parce qu'on n'était que tous les deux. Hein, donc,
alors tu t'appelais Sophie deux heures et après.
Après, mon frère passait, puis après je m'appelais Juliette, puis après, on changeait de nom comme ça. Et très vite, bon, évidemment, on a acheté des disques qui nous plaisaient. Donc moi, j'étais un peu branchée chansons françaises, mais jazz. Mon frère était plutôt sur le rhythm and blues, des choses comme ça. Donc voilà, on a notre. Mais on n'avait aucune ligne éditoriale, qu'elle soit d'information ou de musique. On a mis ce qui nous plaisait. Et puis très rapidement, il y a des gens qui sont arrivés, qui nous ont permis de sortir de devant notre micro, parce qu'on est resté, je ne sais pas combien, peut-être de semaines, que tous les deux comme ça. Et puis les gens sont arrivés. Et puis là, chacun est arrivé avec son envie de proposer une émission musicale. Donc on s'est retrouvé avec une antenne qui était occupée par du hard rock, de la musique brésilienne, de la chanson française. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'unité.
C'était plus dans ta chambre, hein, c'était à Caluire, je crois.
Ah ben là, c'était plus dans ma chambre. L'émetteur était dans mon placard. On avait fait tomber un fil en bas parce que... Mais ma chambre était à Caluire aussi. C'était dans la même maison. Okay. On avait fait tomber un fil qui, un jour d'ailleurs, on a eu des petits chiens. Les petits chiens ont bouffé le fil, donc on a arrêté d'émettre entre l'émetteur et le studio. Oui, c'était assez folklore. Mais on a passé des moments exceptionnels. C'était formidable. On a découvert des musiques qu'on ne connaissait pas. On a découvert des tas de choses, puisque tout le monde était venu enrichir notre antenne avec ses envies et sa musique.
Je crois que vous aviez une formule pour la musique que vous qualifiez de JCBR.
Ah oui, alors après on avait une identité, on avait plus une identité musicale. Et notre identité, nous, entre nous, on l'appelait JCBR. C'était jazz, cool, brésilien et rhythm and blues, je crois, ou reggae peut-être, je ne me souviens plus. Voilà. Comment on a fait ? Et pour l'info, bah, au début, on faisait vaguement une revue de presse à midi, mais en se servant du journal qu'on trouvait chez mes parents. Et puis... Enfin, peut-être pas, mais et puis après, quand on a commencé à faire un peu de pub, tout ça, on a embauché un journaliste que peut-être certains connaissent ici, qui n'est plus, qui s'appelait Albert Agostino. Voilà, et on a bossé pendant, je sais pas, peut-être 4-5 ans avec Ago. Pour l'info, et on faisait une émission tous les matins qui s'appelait Les Branches de l'Étoile, qui était une émission certes musicale, mais on avait des flashs d'informations sur aussi les banlieues de l'Est lyonnais, parce que je ne sais pas pourquoi, on s'était spécialisé dans l'Est lyonnais. Voilà.
Oui, donc ça, c'était Radio Tonus. Ensuite, vous avez déménagé de Caluire et vous êtes allé dans les locaux de Nostalgie, c'est ça ?
Voilà, après, on a fait une radio. Nostalgie nous a accueillis chez eux parce que mes parents, ils n'en pouvaient plus. Hein. Ma mère faisait à manger pour 40 personnes tous les midis. On est parti chez Radio Nostalgie et on a créé une radio qui s'appelait Radio 1. Où là, on était vraiment dans une radio exclusivement musicale. Et notre couleur musicale, c'était JCBR.
Voilà. Voilà. Et vous faisiez de la publicité là, à ce moment-là
Peut-être pas encore à ce moment-là, mais nous, on avait trouvé une méthode pour faire un peu de la pub sans faire de la pub. C'est que comme vous, on vendait nos cartes de membres, puisqu'on était une association, mais on ne les vendait pas forcément à nos animateurs, on les vendait à des tas de gens et on disait on remercie le magasin machin qui nous a pris une carte de membre. Voilà, on était
donc
un
c'était,
peu...
C'était ouais, une façon de placer de la publicité.
Enfin, c'était light.
Ok. Vous avez la parole sur ce thème de la musique, de la programmation musicale, pour nous parler de vos expériences ou questionner... Édouard Lynch ?
Oui, une question sur... Je suis désolé, je suis un peu... je reviens toujours sur le début, c'est là où j'ai un peu travaillé, donc sur la période avant. Mais moi, est-ce que dans la période avant de la période des pirates, est-ce qu'il y avait déjà de la musique ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait, au-delà, parce qu'on a beaucoup parlé des débats politiques, la vie associative, mais est-ce qu'on allait dans des concerts ? Parce qu'on a vu qu'il y avait cette scène lyonnaise hein, qui était quand même déjà importante à la fin des années 70. Est-ce qu'il y avait déjà des ponts ? C'est-à-dire que, est-ce que Canu ou Léon allaient dans les concerts, relayaient des concerts, des choses comme ça ?
Oui, dans les gens qui se sont, excusez-moi, dans les gens qui se sont intéressés à la radio pour émettre et pour combattre le monopole, il y avait aussi des gens qui étaient porteurs des nouveaux courants de musicaux, et à la fois des courants musicaux qui ont été cités, parce que moi, c'est pas, je ne suis pas trop branchée là-dessus, mais quand même, c'était très important qu'ils avaient envie de faire de la radio pour pouvoir émettre des choses qu'on n'entendait pas ailleurs. Et il y avait aussi la musique issue des différentes migrations, et notamment une grosse influence après la situation au Chili. Il y avait un gros groupe chilien à Lyon qui était branché sur Radio Canu et qui amenait donc un contenu musical et d'information qu'on n'aurait pas pu amener nous. Et donc, je crois que ça a joué aussi sur le mélange des genres qu'on retrouve aujourd'hui. Mais à l'époque, le fait qu'ils aient envie de faire de la radio dans le groupe qu'on composait, je crois que c'est très important. De la même façon, par rapport à on a eu des groupes d'Arméniens, par exemple, hein, également, qui ont amené leur savoir et leur musique. Pareil sur des Berbères. Voilà. Donc, je veux dire que le fait d'avoir une diversité de membres de l'association, ça amenait une diversité à l'antenne et un mélange des genres. Alors, on n'écoutait pas forcément. Moi, je n'ai pas beaucoup écouté, je reconnais. Je m'occupais plus de préparer l'info et les chansons françaises. Chacun son truc. Ou les histoires lyonnaises. Et quand les gens, ils appelaient au téléphone, ils cherchaient celle qui causait lyonnais. Bon, c'est pas grave. Hein. On ne donnait pas les noms, d'ailleurs. Hein, mais moi, il n'y avait pas besoin de mettre un nom. On disait, c'est celle qui cause lyonnais. Donc, voilà, quoi. Mais c'est vrai que je crois que cette diversité, elle venait aussi de la composante et de la liberté de ton que l'association les autorisait. Par contre, à des moments donnés, on a dû freiner des propositions de musique, par exemple, parce que si ça amenait pas quelque chose quelque chose de nouveau, c'était un peu dommage pour l'audition, même si on émettait 24 heures sur 24, donc on pouvait remplir, hein, mais quand même.
Donc vous choisissiez quand même. Hein,
choisissait pas, mais on essayait de mettre dans la diversité.
Ouais. Robert, oui, sur les concerts, par exemple, par rapport à la question posée.
Pour cette question-là, à Bellevue, effectivement, d'abord, on annonçait beaucoup les concerts. On parlait tout à l'heure justement de cette manière de publicité qui était les partenariats, effectivement des échanges de bons procédés qui faisaient qu'on avait des places, des entrées ou des places à faire gagner. En contrepartie de quoi on annonçait des concerts auxquels on tenait. Et c'était foisonnant à Lyon, effectivement, à l'époque. Et en scène locale, on avait aussi une émission qui s'appelait le Live Bellevue Show, et dont le représentant, enfin le fondateur est ici même, arrivé largement en retard d'ailleurs.
Il est là.
Mais Olivier Païssé, qui avait cette émission, qui, comme son nom l'indiquait, s'occupait des lives, il fait partie de cette culture des tapers, comme on dit, puisque ça a démarré aux États-Unis, des gens qui captaient, les pirates qui captaient les concerts, donc avec un petit magnétophone au début, avec des micros un peu plus sophistiqués plus tard. Et puis maintenant, c'est des sorties directes de console, mais... ces concerts, nous les diffusions à l'antenne, donc il y avait des émissions spéciales live avec notamment les groupes locaux qui étaient notre priorité. C'était surtout plus facile d'avoir les autorisations en plus avec cela qu'avec les groupes en tournée, les groupes étrangers en tournée. Mais voilà, il y avait un regard sur la scène locale. La plupart des musiciens des groupes locaux, et j'en étais un exemple, participaient à la radio et représentaient cette scène locale.
Alors, je vous propose encore une question là-bas sur la musique.
Et puis, c'est vrai que c'est l'époque où on découvrait, puisqu'on parlait des styles, Sophie parlait à l'instant des styles, on découvrait plein de musiques nouvelles. Je parlais de métissage tout à l'heure, mais le reggae est arrivé, ça a été évoqué, d'une force incroyable à partir du milieu fin des années 70. Mais il y a eu un retour du rockabilly, il y a eu un retour des musiques... Caraïbes, le ska par exemple à Londres, il y avait ces punks, il y avait des musiques indie également, enfin qui venaient d'Inde, qui se mélangeaient aussi déjà à Londres avec d'autres styles. On écoutait aussi l'afrobeat de Fela. Il y avait beaucoup d'ouverture sur toutes ces musiques,
hein, un peu d'électro aussi,
bien sûr des musiques électroniques. J'en avais parlé tout à l'heure. Tous ces courants se mélangeaient et se mélangeaient aussi à d'autres pratiques artistiques, à la mode, à la danse, danse contemporaine, dont Lyon était un foyer important dès cette époque-là. Et nous en parlions beaucoup de la danse contemporaine. Marie-Christine Vernet, qui est une spécialiste, faisait partie des intervenants réguliers de Bellevue, historique. Et ces pratiques, comme la danse ou la mode, se mêlaient aux musiciens. Ça faisait des concerts performances, j'utilisais déjà ce mot tout à l'heure, où il pouvait y avoir un défilé de mode en entracte d'un concert de rock.
Non, ce que je voulais dire, dans le prolongement de ce qui a été dit, la diversité aussi bien en matière d'infos que de musique était liée à ceux qui faisaient la radio. Mmh. Et par exemple, à Radio Julie, il y avait aussi bien des gens qui faisaient très très tard le soir un rock très très dur, et on avait le dimanche matin une émission accordéon faite par une brave dame et qui a continué ensuite jusqu'à plus de 80 ans sur Radio Pluriel. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il faut qu'on donne la parole aussi pour avoir la couleur musicale de Sol FM. On a un voisin derrière qui n'a pas parlé.
Il est obligé de parler, là.
La couleur musicale de Sol FM, enfin à l'époque c'était Radio Sol, c'était un peu le pendant de Bellevue, sauf que nous, on n'était pas à Lyon, on était à Oullins, certes, ouais. C'est la banlieue, c'est à 4,5 km à peu près de Lyon, 4 km, et très tôt, tu parlais de 82-83, on s'est associé nous avec ce qui s'appelait à l'époque la MJC d'Oullins, et qui a initié en grande partie plein de partenariats avec nous au niveau de la radio pour tous les concerts, donc les concerts de Killdozer, des Snapping Boys, puisque à l'époque, concomitamment avec la création de la radio, c'est créer une salle de concert à la MJC d'Oullins qui a pu faire qu'on a vu dès 84-85, mais là on sort des années 82, la Mano Negra, les Carayos, les Hot Pants, etc. Et on a beaucoup travaillé avec le monsieur qui est là-bas pour effectivement promouvoir la musique et les groupes locaux, un peu comme disait Robert tout à l'heure. Voilà.
C'est très important effectivement de préciser ça, que à Lyon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je l'ai évoqué, il y avait une chape de plomb un petit peu sur la rock culture et sur ces dégénérés qui faisaient beaucoup de bruit et qui dérangeaient le voisinage. Et la municipalité n'a eu de cesse pendant des années que de contrer un petit peu les projets qui tournaient autour de cette musique. Et c'est vrai que on allait chercher un petit peu à l'extérieur. Et le point Orcel, la MJC d'Oullins, était un de ces lieux de rendez-vous un peu extérieur à Lyon, où on pouvait trouver ce qu'il fallait et où les groupes locaux, ça vient d'être dit, pouvaient jouer devant un public, ce qui était très difficile à Lyon, qui était rare et souvent annulé, voire interdit. Il y a eu des périodes d'interdiction, vous le savez tous, de concerts, plutôt dans les années 70 quand même, sous Francisque Collomb.
Ok, alors pour clore cette séquence consacrée à la musique, ben on va écouter une chanson, un petit bout de chanson de Bernard Lavilliers, en précisant quand même que sur les antennes de la radio d'État, des périphériques, il y avait des chanteurs français et des chanteuses françaises qu'on n'entendait pas ou peu, Léo Ferré, Brassens, Ferrat, etc. pour certaines chansons, Colette Mani, etc. etc. Donc Lavilliers qu'on n'entendait pas ou peu aussi, donc on écoute un bout de Kingston.
Si tu rêves de tropique, c'est vraiment tropical. Le reggae dans la rue, calypso dans la salle. Si tu veux tout de suite qu'on réponde aux questions, remonte dans ton jet et retourne à Nation. Tu trouveras ici non pas ce que tu penses, non pas ce que tu cherches, ça n'a pas d'importance. La beauté, la violence, posée sur la balance. Affamé comme moi, affamé comme moi, affamé comme moi.
Elle avait un magazine, par exemple, l'Association des locataires du Tonkin. Leur problème, c'était de développer toutes les problématiques du Tonkin, c'est-à-dire en matière de défense de l'habitat, par rapport aux projets qui pouvaient exister, de structuration, le fait qu'il n'y ait que du béton sur ce quartier, que le dernier terrain de foot, on l'ait enlevé ou des choses comme ça. Ils étaient sur cette défense de l'habitat. Par exemple, le comité de quartier aussi. Les pacifistes, eh ben, ils étaient là pour donner de l'actualité de, locale et internationale de leur thématique. Si on prend le secours catholique, eh ben, les quêtes qu'ils pouvaient faire, ou le secours populaire, les différentes actions qui existaient, inviter les gens à les rejoindre pour faire telle ou telle chose. Ça, c'était tout le discours associatif, mais qui était déjà doublé d'un discours sur, par exemple, les émissions... je ne sais pas, électro qui existait à l'époque, il n'y en avait pas trop en 84-86, mais je pense plutôt à des émissions de blues ou des choses comme ça, avec des gens qui pouvaient être déjà assez érudits et qui venaient effectivement partager leur passion.
Voilà, là on vient d'entendre Bernard Dautant, peut-être certains l'auront reconnu, de Radio Charpennes-Tonkin, qui parle de la participation citoyenne à la radio qu'il a fondée avec d'autres. Hein, voilà. Donc on en vient à ce chapitre. Simone Darret, donc vous avez été une des pionnières, vous étiez présidente de Radio Canu de 81-85. Et donc la place tenue par les citoyens et aussi les auditeurs, auditrices, qu'est-ce qu'elle était ? Quelle était-elle sur Radio Canu ? Comment ça se manifestait ?
Je crois que c'était fondamental dans la façon dont on concevait la radio. Mais je voudrais prendre un exemple. On a évoqué, par exemple, l'émission avec les prisonniers. Quand on a commencé à vouloir justement donner la parole aux prisonniers, ce qui n'était pas aller leur parler, c'était aussi leur donner la parole et leur permettre de dialoguer avec leur famille. Je ne sais pas si vous voyez le trajet que ça représentait avec des téléphones, comme on l'a dit, hein, des moyens très rudimentaires. Et c'est vrai qu'on a commencé à permettre, donc, il y avait deux soirées, si je me souviens bien, où c'était les prisonniers qui téléphonaient et on avait sur un autre téléphone les familles et donc on entendait ce qu'ils avaient à se raconter. On a fait ça pendant 2 ans.
Mais ils téléphonaient de la prison ? Ils obtenaient le droit de téléphoner de la prison ?
Oui. C'était bon, je ne sais pas comment ils faisaient. Hein. Moi, je ne suis pas trop rentrée dans le détail, mais tout ce que je sais, c'est que ça a été, y compris, mis en cause par les autorités en considérant qu'il y avait des problèmes de sécurité par rapport à des messages cryptés. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on n'avait peut-être pas les reins assez solides en tant qu'association lyonnaise et déjà... étiqueté très, très libertaire, pour faire un mot court. Et donc, on a passé le relais à Radio Fourvière à ce moment-là, pour pas interrompre la liaison avec toute cette population qui avait le droit d'avoir une expression radiophonique. Mais c'est vrai que c'était extrêmement compliqué et c'était dur des moments pour les bénévoles de l'association qui étaient dans l'interface entre les prisonniers et leurs familles, parce qu'il y avait des fois des propos très, très durs à entendre, et on avait y compris des collègues qui n'arrivaient pas à rester sereins, ou à... ça les brusquait trop, quoi, je veux dire. Et comme on n'était pas des professionnels, je crois que c'était aussi quelque chose de difficile à gérer, de ce point de vue-là. Par contre, c'était tout à fait la marque de fabrique un peu de ce qu'on voulait avoir comme relation avec les auditeurs. C'est-à-dire que quand un auditeur nous téléphonait, il avait quelque chose à nous dire et ce n'était pas nous qui avions plus à lui dire. Et je crois que ce dialogue, dans un sens, en quelque sorte, moi, il m'apparaissait comme très important parce que c'était vraiment la suite de tous les combats pour la communication qu'on avait vécu dans les années 68 et après.
Donc sans filtre, quoi.
Sans filtre, voilà. Et mais c'est vrai que des fois, le sans filtre, il est compliqué. Hein, parce que il faut quand même gérer les émotions. Donc ça a été un moment important dans la vie de la radio, y compris certains ne voulaient pas lâcher, puis d'autres disaient « mais non, on ne peut plus parce que c'est trop compliqué ». Et puis comme on sentait que on n'avait encore pas l'autorisation officielle d'émettre, puisqu'on a été les derniers, comme je vous l'ai dit, grâce merci Stéphane Hessel, il n'y a que lui qui a compris ce qu'on voulait faire et qui nous a fait confiance. Donc en 84, hein, pas avant, 85 même. Donc on était fragilisés parce qu'y compris la fréquence qu'on occupait, elle était contestée par les autres radios libres. Hein. Et les premiers qui nous cassaient l'antenne sur le toit rue Pouteau, c'était les autres radios libres. Hein. Donc cette radio qui donnait la parole aux prisonniers, elle était encore plus dérangeante que les autres. Et surtout, comme on n'était pas encore complètement autorisé, ça rendait l'exercice très compliqué. Mais oui. Voilà. Okay. Mais je crois que, enfin, j'essaye de chercher les exemples qui parlent sur la relation à l'auditeur, ouais. Dans un autre sens que ce qu'on était habitué à entendre dans les radios existantes.
Qui d'autre derrière la table veut témoigner du rapport aux auditeurs, auditrices?
Donc les auditeurs, nous, c'était essentiellement, donc ils venaient à la radio soit prendre en charge une séquence, qui pouvait être une séquence de libre expression, soit parce qu'on allait les chercher, les interviewer et ramener de l'information, puisque tout le monde n'est pas non plus capable de prendre en charge une émission ou n'a pas les capacités à animer une antenne. Donc je pense que c'était ces deux choses-là. Hein,
et le téléphone aussi?
Bah, le téléphone, comme je l'ai dit, ouais, plus tard. C'est pas simple à gérer, le téléphone, parce que ouais. quand vous avez basculé quelqu'un sur l'antenne...
Pour l'arrêter des fois, c'est dur. Oui.
Bah, d'abord, vous contrôlez pas ce qu'il va pouvoir dire, ouais. et ça peut très très vite déraper. Si après vous le coupez, vous êtes taxé de... je ne veux pas dire de fascisme, mais presque. Enfin, on a eu à employer ce mot-là contre nous, quoi, parce que si vous coupez, bah, voilà... Bon. Donc le téléphone est quelque chose de très délicat à manipuler en radio. Si vous n'avez pas avant quelqu'un, même les grandes radios se font piéger hein, parfois, alors qu'ils ont des filtres, ils ont des gens qui interviewent avant le passage à l'antenne et puis une fois en direct à l'antenne.
En tout cas, probablement, enfin là j'anticipe un peu sur l'émission de tout à l'heure qui va clore l'après-midi, mais on peut dire que toutes ces pratiques de donner la parole aux gens sans filtre, la plupart du temps, ça a sans doute donné naissance à ce qu'on appelle les talks aujourd'hui avec les radios qui font leur beurre avec la parole des auditeurs, comme RMC par exemple, qui a institué ça, etc. Et d'autres, hein, et le téléphone sonne, etc. etc. Enfin, il y en a de partout maintenant. Sophie, tu as une certaine expérience du téléphone sur Tonus, l'insert téléphonique dont tu parlais tout à l'heure que vous aviez acheté. Mmh. Puis après, sur France Inter Lyon, enfin, Phil, etc. Enfin, c'est difficile, de, comme dit Jacques, de maîtriser le téléphone en radio. Et c'est intéressant de l'ouvrir.
C'est pas facile de maîtriser le téléphone quand les gens ont la parole. Et effectivement, tu peux pas leur couper la parole. Bon, après, t'as la musique, tu peux envoyer la musique. Enfin bon, ça se réglait comme ça. Et puis, c'était difficile aussi. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans ma voiture et d'entendre que à la radio chez nous on avait laissé l'insert téléphonique ouvert, que les gens s'engueulaient copieusement, que les gens réglaient leur compte,
ils se téléphonaient sans savoir qu'ils étaient à l'antenne,
ils savaient pas qu'ils avaient levé le bouton, et de m'arrêter dans des cabines téléphoniques et de dire ça suffit. Après ouais, ça a été un peu folklore, mais c'était quand même sympa d'avoir les gens au téléphone, de pouvoir échanger avec eux. On s'était lancé dans un truc, c'était bien aussi de pouvoir échanger, de pouvoir savoir ce qu'ils attendaient, et puis on s'amusait beaucoup. C'est vrai qu'on s'amusait beaucoup. Après, sur FIP, le téléphone était quand même on communiquait avec nos auditeurs que par là. Hein, sur FIP. Nous, on parlait beaucoup, mais on répondait au téléphone et on parlait beaucoup avec les gens. Le téléphone, ça a toujours été quelque chose quand même...
C'est le fil.
Oui, c'est un fil, exactement.
Complémentaire du média radio.
Vraiment,
quoi.
Ouais. Mmh.
Oui, Robert. L'antenne, à l'époque, c'était des petites équipes. En général, quelqu'un tout seul faisait son émission. On n'avait pas, comme dans les radios nationales, deux techniciens ou trois dans la cabine, un rédacteur. Donc, le mec fait tout seul, ou la personne, en tout cas. Je dis mec, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de femmes, effectivement, au micro, dans les radios libres.
C'est vrai.
Faut reconnaître, à Bellevue notamment. Mais donc, pour les mêmes raisons qui viennent d'être évoquées, nous, on l'utilisait assez peu, le phoneur. Parce que, oui, techniquement, c'est pas facile, parce qu'il faut une personne presque à plein temps. Déjà, pour avoir un relationnel avec ses auditeurs, c'est un standard quasiment qu'il faut pour, pour écouter, non pas parce qu'il y a des milliers de gens qui vont se précipiter, mais ça demande à être là, présent tout le temps et ne pas faire une émission en même temps. Donc, pour ces raisons-là, on l'utilisait assez peu. Mais je dois reconnaître une chose, c'est que les auditeurs avaient la parole ou leur façon d'être à l'antenne, dans la mesure où quiconque était passionné de musique et connaissait le numéro ou l'adresse de Bouledingue ou le numéro de téléphone de Serge Boissa ou de l'un d'entre nous, il téléphonait et il venait faire une émission en général dans la semaine qui suivait. Et certains d'entre eux sont restés des permanents par la suite. Beaucoup sont partis tout seuls parce qu'ils se sont rendus compte que c'était ou ridicule ou pas vraiment leur truc, ou ils n'étaient pas assez assidus. Mais enfin, les auditeurs venaient faire directement leurs émissions, les passionnés en tout cas, pour les musiques notamment.
Comment ça se passait? Vous accueilliez la personne, vous testiez un peu ou c'était... Oui, quand même. Il y avait un minimum de...
Un strict minimum. Ce qu'on testait, c'était surtout sa passion, le côté pointu, ce qu'il pouvait avoir de connaissances dans son secteur musical, si c'était quelqu'un qui était vraiment passionné et qui pouvait amener des sons que nous n'avions pas ou que tout le monde ne connaissait pas, ça le faisait. On ne testait pas les voix. C'était la surprise après, des fois.
Alors, je vais vous donner la parole. J'ai encore juste une question sur les auditeurs, les citoyens, citoyennes qui se présentaient à vos radios avec l'envie d'en faire. Est-ce qu'il y avait une réflexion, une politique dans vos stations de formation ou pas? Pas du tout. Ou est-ce que c'était t'as envie, fait.
Oui, il y avait.
Petit test. Il y avait quand même.
Oui, il y avait l'idée de former les gens. On avait, surtout dans la deuxième partie, à Bellevue, on a eu deux périodes. Une période où ça se passait rue Saint-Michel,
dans
la villa Bellevue. Et puis après, on a eu des locaux un peu plus vastes et dans lesquels il y avait deux studios, un de production et un de diffusion. Et au milieu, un bocal dans lequel se faisaient d'ailleurs les lives dont je parlais tout à l'heure, live dans le bocal. Donc là, les groupes venaient jouer en direct à la radio et passer à l'antenne en direct. Mais donc, ce studio de production nous permettait d'expérimenter des choses et de former les gens ou de les former à l'interview, puisqu'il y avait ce fameux bocal de l'autre côté qui permettait de maqueter. C'était dans la dernière partie de la radio où on était un petit peu plus professionnalisés. Mais au début, c'était beaucoup, beaucoup plus flou. La préparation, en tout cas, l'initiation.
Mais même en étant bénévole et non professionnel, on a eu des moments de... On avait un copain dans la radio qui était de théâtre et qui nous réunissait pour mieux apprendre à parler au micro, poser sa voix, pas trop parler longtemps, enfin des choses comme ça. Et du coup, ça permettait d'avoir un noyau de gens qui avaient fait ça, enfin, ces expérimentations-là, et qui étaient à leur tour, un peu initiateurs des autres. Sans les brimer, mais quand même en essayant de discuter, quand les gens proposaient des émissions, de discuter sur qu'est-ce qu'ils pensaient faire pour que l'émission soit audible. Donc, je crois qu'il y a eu quand même la transmission d'un certain savoir-faire oral à la radio, même si très modestement, et je pense qu'effectivement, l'étiquette de Canus, c'est qu'il y avait des périodes inaudibles et des périodes très audibles, avec des émissions de très grande qualité. Quand on parlait cinéma avec Thierry Frémaux, ça se comprend. Ou même avec nos copains chiliens, quand ils nous parlaient de leur pays, ça se comprenait aussi, enfin, etc. Ou même nous, quand on parlait de chansons françaises, on s'y connaissait un peu. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a quand même eu un certain apprentissage de ce que c'est que de parler à la radio. Et après, il y avait des gens, ils étaient des membres de la radio qui payaient pour faire leur émission. Ils étaient accros, ils n'avaient pas envie de lâcher. Mais par contre, on passait quand même un accord avec eux. Et s'ils avaient des auditeurs en ligne et tout, on mettait quand même les bornes, notamment sur tout ce qui devait se dire et pas se dire. Par exemple, pas d'insultes, pas d'insultes notamment à caractère raciste, bien évidemment, ni sexiste. Mais à part ces frontières-là, les gens étaient contents, d'apprendre à parler à la radio.
Si je peux juste ajouter un truc à propos de cette formation, cette initiation à travailler à la radio, à parler à la radio, à faire un magazine ou une émission en général, ça a beaucoup... Enfin, la technique a tellement évolué, on en a parlé tout à l'heure, on était encore à l'époque d'avant le numérique, avec des disques, des cassettes et des magnétophones. Et faire de l'info ou monter une émission à l'avance, c'était tout un business. Il fallait déjà avoir un Revox au moins, savoir couper les bandes, savoir les monter. C'était pas accessible à tous. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Radio Bellevue continue sous une forme web et tout passe par l'ordinateur. Et avec n'importe qui a un ordinateur, un outil de montage et peut très facilement s'initier à monter une émission complète, un magazine complet, insérer des sons, tout ce qui était tellement compliqué avant à faire, effectivement.
Absolument.
C'est pour montrer pourquoi cette initiation était assez limitée. La parole, c'est une chose, mais fabriquer une émission, c'est plus complet.
Patrick, il y a des gens qui souhaitent parler. Juste la dame vers toi, là. Patrick, regarde.
Non, mais il a son casque sur les oreilles.
C'est promis. Ce n'est pas vraiment une question, c'est simplement pour vous dire que grâce à vous, nous sommes nombreux, je suis peut-être de la génération d'après, on a pu apprendre à faire de la radio. C'est-à-dire que la radio devenait possible. Ces radios locales ont été une fabuleuse école d'apprentissage pour nombreux d'entre nous qui ont pu faire après une carrière parce qu'ils ont fait leurs premières armes avec vous et dans ces radios. Et aujourd'hui encore, les radios locales restent une fabuleuse école. Et je le dis à tous les étudiants en journalisme, il y a peu de place dans les grands médias, mais par contre, dans les petites radios locales, vous allez pouvoir faire des choses et beaucoup plus de choses et apprendre beaucoup plus. Voilà.
C'est vrai.
Franchement, c'est une intervention sur laquelle je vous propose qu'on s'arrête. On s'arrête là. C'était beau ce que vous nous avez dit là. Et en plus, ça me permettra d'arrêter cette séquence à 17h30. J'ai travaillé en Suisse, à la radio suisse, pendant 23 ans. Voilà. Non, encore une petite minute pour vous dire que... remercier déjà Robert Lapassade, Sophie Faudot, Simone Daret, Jacques Boulu et Elmira et Mathieu à la technique. Voilà. Et puis... merci pour vos interventions et votre attention. Une pause café jus de fruits. Et ici même, donc, vous savez qu'à 18h pile, va démarrer une véritable émission de radio menée par les étudiants et étudiantes de l'ICOM sur le thème « Que reste-t-il aujourd'hui des radios libres ?» Voilà, à tout à l'heure.
Parole avant, parce que peut-être que vous n'allez pas tous rester... Je pense en particulier aux témoins qui sont venus nombreux. Vous avez noté vos numéros. Nous, on a besoin. Le projet, il commence. Hein. On a peut-être l'impression qu'on a déjà fini, mais non, en fait, on commence. Et c'est extrêmement important à travers ceux qui ont témoigné de toutes ces expériences, sauf certains qui n'ont rien dit. Si vous pouvez mettre dans un petit coin de votre tête, voilà, que tout ce que vous pouvez rassembler comme documents chez vous, chez les gens que vous connaissez, que vous savez qu'il y a des gens qui ont des sons, qui ont des traces de ces activités-là. Nous, on en aura besoin. Ces traces, elles pourront être collectées et conservées ici. C'est absolument essentiel pour qu'on arrive à aller au-delà de ces échanges qui sont extrêmement riches, extrêmement émouvants aussi parfois, mais qui nous permettent aussi d'aller plus loin. Donc voilà, essayez que ce ne soit pas one shot de s'être rassemblé, d'avoir évoqué des vieux souvenirs, c'est super, mais que voilà, si vous pouvez penser à vos réseaux, regarder dans vos fonds de tiroir, parce que tous ces documents, ils sont en fait extrêmement précieux, extrêmement rares en fait pour travailler. Voilà, donc vous avez des adresses par lesquelles vous avez été invité, peu importe à qui vers qui vous vous tournez, mais pour que nous, on puisse alimenter cette chasse au trésor, si je puis dire, qui nous permettra de travailler, et aux générations futures aussi, parce que ça sera installé ici. Voilà, merci d'avance.